Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 11 juin 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Mali, le gouvernement du Premier ministre Choguel Maïga est connu. Les militaires obtiennent des postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale. Élections législatives anticipées demain en Algérie, la capitale bouclée par les forces de l'ordre et les leaders de la contestation sont jetés en prison. Recul de la pandémie de Covid-19 dans le monde, sauf en Afrique, où le taux de contamination ne cesse de croître. Ouverture du sommet du G7, aujourd'hui, à Cornouailles, en Angleterre. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le deuxième gouvernement de la transition au Mali est désormais connu. Il s'agit de 25 ministres, dont 3 ministres délégués. Les militaires conservent les postes clés. Le M5-RFP obtient 3 ministères en plus de la primature. Les groupes armés signataires de l'accord d'Alger et les femmes sont aussi représentées. Mohamed Danyoko est le correspondant de VOA Afrique à Bamako.
Le gouvernement Choguel Kokala Maïga est désormais connu. Il s'agit de 25 ministres et 3 ministres délégués. On note que le colonel Sadio Camara conserve son portefeuille du ministre de la Défense. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga reste au ministère de l'administration territoriale, de même que le colonel Ismaël Wagué qui conserve son fauteuil de ministre de la Réconciliation. Par contre, le colonel Modibo Koné, qui était ministre de la Sécurité, lui est remplacé par le colonel-major Daoud Ali Mohamedine. Le M5-RFP, en plus de la primature, s'adjuge les ministères de la Refondation de l'État, de l'Éducation et le ministère délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement Social en charge de l'action humanitaire. Les groupes armés signataires figurent en bonne place dans ce gouvernement à travers Moussa Ag Atahir, Maître Aruna Touré et Alhamdou Ag Iliane. S'ils sont une dizaine à être reconduits, on note le grand retour du ministre Abdoulaye Diop au affaires étrangères, poste qu'il a longtemps occupé sous Ibrahim Boubacar Keïta. De 5 dans le premier gouvernement de la transition, les femmes sont désormais au nombre de 6. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Réaction au lendemain de l'annonce du président Emmanuel Macron d'une réduction de la présence militaire française au Sahel. Pour la ministre française des armées, les pays sahéliens sont plus en mesure de faire face à leurs ennemis. Le point avec Abdourahman Dia.
Florence Parly indique que le moment est venu car les forces armées sahéliennes désormais sont plus en mesure de faire face à leurs ennemis. Elle prédit aussi une plus grande présence d'autres pays européens pour aider les armées des pays touchés. Elle assure également que l'engagement militaire français restera très significatif. Après plus de 8 ans d'engagement massif, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier jeudi la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale. Interrogé sur le volume de réduction à venir des effectifs militaires français au Sahel, Florence Parly a refusé de dévoiler des chiffres. Elle a aussi annoncé que l'armée française a tué samedi dans le nord malien un chef djihadiste présenté comme le responsable de la mort de nos 2 confrères de RFI. Selon Mme Parly, le 5 juin, les soldats de Barkhane ont détecté la préparation d'une attaque à Aguelok et ont éliminé 4 terroristes dont Bayak Bakabo, cadre d'Akhmi, présenté comme le responsable du rapt de Ghislaine Dupont et Claude Verlon en novembre 2013.
Des hommes armés ont attaqué jeudi soir une université dans le nord du Nigeria, tuant un étudiant et en blessant un autre. Ils ont kidnappé 5 personnes, dont 3 étudiants, selon un communiqué du syndicat des enseignants. L'épouse et 2 enfants de l'une des personnes kidnappées ont également été enlevés par les ravisseurs, mais ont été libérés dans la matinée, précise le communiqué. Le gouvernement mozambicain, jusqu'ici réticent à toute intervention étrangère, doit accepter une aide militaire mesurée pour combattre les djihadistes dans le nord du pays, recommande le groupe de réflexion internationale Crisis Group, ICG, dans un rapport publié aujourd'hui. Cette aide doit servir à soutenir et former l'armée locale, tout en évitant un déploiement massif de troupes étrangères, exhorte le rapport, car cela pourrait finir par pousser d'autres djihadistes à venir combattre une intervention internationale, mais en garde l'expert Dino Matani, principal auteur du rapport. Éthiopie, 30 000 enfants en danger de mort au Tigré, en proie à la famine, selon l'UNICEF. Des dizaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition, a déclaré à Genève James Elder, porte-parole de l'UNICEF. Les agences humanitaires de l'ONU ont prévenu jeudi que des millions de personnes au Tigré ont besoin d'une aide alimentaire, dont 350 000 menacés de famine, et ont dénoncé le blocage de l'aide par des groupes armés. Les États-Unis et l'Union européenne ont pour leur part lancé jeudi un appel pressant à l'action pour lutter contre l'apparition de la famine. 24 millions d'Algériens sont appelés aux urnes demain pour des législatives anticipées. Alger est bouclé ce vendredi au lendemain d'un coup de filet visant les figures du mouvement contestataire Irak. Yacouba Ouedraogo.
D'après Saïd Sali, vice-président de la Ligue pour la défense des droits de l'homme, les forces de sécurité ont procédé à 7 arrestations et gardes à vue à Alger, Sétif et Oran. Parmi les personnes interpellées, l'opposant Karim Tabou, militant populaire du mouvement Hirak, Izan El Kadi, directeur d'une radio proche de Hirak, et le journaliste Khaled Drareni. Le journal officiel a publié hier une ordonnance présidentielle qui redéfinit les actes terroristes et établit une liste de personnes et entités terroristes. Ces arrestations coïncident avec le début de l'application de cette ordonnance. Ces législatives anticipées ont été convoquées par le président Abdelmadjid Tebboune, mais sont rejetées par le Hirak et une partie de l'opposition. Les électeurs doivent choisir 407 députés parmi près de 1500 listes. Le principal enjeu sera le taux de participation. L'abstention à la présidentielle de 2018 était de 60% et elle a été encore plus élevée au référendum de 2020 où 76% des Algériens ont boudé les urnes.
L'Afrique du Sud qui cherche à amener devant la justice un trio d'hommes d'affaires accusés d'avoir pillé les ressources publiques avec la complicité de l'ex-président Jacob Zuma a annoncé aujourd'hui finaliser un accord d'extradition avec les Émirats Arabes Unis. Les frères Gupta, Ajay, Atul et Rajesh, d'origine indienne, ont fui l'Afrique du Sud peu après la création, en 2018, d'une commission chargée d'enquêter sur la corruption pendant les 9 ans de pouvoir de Jacob Zuma. Ils se trouveraient aux Émirats Arabes Unis. L'accord d'extradition sera signé le 10 juillet et entrera en vigueur un mois plus tard, a déclaré le ministre de la Justice, Ronald Lamola, lors d'un point de presse en ligne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Assemblée générale des Nations unies a élu aujourd'hui l'Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et les Émirats arabes unis au Conseil de sécurité des Nations unies pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2022. Les 5 pays n'ont pas rencontré d'opposition pour siéger au sein de cet organe de 15 membres chargés de garantir la paix et la sécurité internationale. Ils remplaceront l'Estonie, le Niger, Saint-Vincent et les Grenadines, la Tunisie et le Vietnam. Les dirigeants du G7 se réunissent à partir de ce vendredi en Cornouailles, en Grande-Bretagne. Ils doivent mettre en avant leur unité face au changement climatique et la pandémie de COVID-19. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet, a salué une occasion extraordinaire de tirer les leçons de la pandémie et de reconstruire en mieux, de manière plus verte et plus juste. Joe Biden signale le retour des États-Unis sur la scène internationale après les années isolationnistes de Donald Trump. J'ai hâte de renforcer notre engagement envers le multilatéralisme et de travailler pour bâtir une économie mondiale plus juste et inclusive. Les dirigeants du G7 devraient s'accorder pour fournir au moins 1 milliard de doses avec l'objectif de mettre fin à la pandémie en 2022 selon Downing Street. Les États-Unis ont d'ores et déjà promis de donner 500 millions de doses et les Britanniques 100 millions. La lutte contre le réchauffement climatique sera notre priorité. Face aux défis posés par la Chine ou la Russie, le G7 adoptera un mécanisme éliminant la corruption respectueuse du climat pour investir dans les infrastructures physiques, numériques et de santé dans les pays à faible et moyen revenu, a détaillé un responsable américain. La Chine a déjà dénoncé la volonté américaine basée sur les intérêts de clics et une politique des blocs.
Le président américain Joe Biden recevra la chancelière allemande Angela Merkel le 15 juillet à la Maison-Blanche, a annoncé aujourd'hui sa porte-parole en marge du sommet du G7 en Cornouailles. La dirigeante allemande doit quitter la chancellerie après les élections législatives de septembre. Pour la 6e semaine consécutive, la pandémie de coronavirus a décéléré dans le monde, sauf en Afrique, où elle a fortement augmenté. Claire Morin-Gibou.
Les nouvelles contaminations ont baissé de 16% dans le monde, particulièrement en Asie et en Europe. Mais la pandémie a fortement augmenté en Afrique avec plus 28% de nouveaux cas, dont les trois quarts ont été enregistrés dans cinq pays, notamment en Égypte, Afrique du Sud, Tunisie, Ouganda et en Zambie. Les autorités sud-africaines ont déclaré que le pays était entré techniquement dans une troisième vague avec plus de 9000 nouvelles contaminations en 24 heures. En Zambie, l'épidémie accélère avec 1200 nouveaux cas par jour. Dans le monde, l'Inde reste en tête des décès quotidiens, plus de 3000 par jour, devant le Brésil et ses 1800 décès quotidiens. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé aujourd'hui la Chine à la coopération et à la transparence sur l'origine du virus, alors que Washington tente d'établir si le coronavirus a pu provenir d'un accident de laboratoire chinois.
À présent, la minute écho avec Claire Morin-Jigouni.
Au Niger, 161 milliards de francs CFA vont être injectés dans le cadre du projet énergétique transnational Dorsal Nord. Cela va permettre l'électrification de 432 communes rurales d'ici 2025. L'annonce a été faite hier à l'issue d'une réunion des ministres de l'énergie des cinq pays concernés par Dorsal Nord, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Togo. Le Burkina Faso a obtenu un prêt de 30 milliards de francs CFA de la Banque Ouest-Africaine de Développement pour la construction et le bitumage de la route régionale numéro 11, Kolinka-Fara-Poura-Carrefour. Cette infrastructure va contribuer au renforcement de l'intégration économique des régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et du sud-ouest burkinabé.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le TAS a rendu sa décision. Le match Sierra Leone-Bénin, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN, sera rejoué. Le tribunal arbitral du sport confirme ainsi la décision de la CAF. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Élisée Mpatine.
La fumée blanche tant attendue est sortie du tribunal arbitral du sport et au regard du verdict à Lausanne en Suisse. Il a partiellement admis à l'appel de la Fédération béninoise de football dans les détails des points as de sa plainte. Au-delà de confirmer le report du match au 14 juin à Conakry en Guinée, le TAS rejette la demande de déclarer la Sierra Leone forfait pour le match et l'exclut de la prochaine CAN. Dans l'autre demande, celle de déclarer que le match est perdu sur tapis vert est également rejetée. Claude Paki, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, ne trouve aucun problème à cette décision.
On l'a bien accueilli, il n'y a pas de problème pour ça. C'est déjà au niveau de la commission de discipline que la sanction sera prise. Mais je crois comprendre que le Bénin doit pouvoir être dédommagé. Et l'autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est la délocalisation du match. Cette fois-ci, c'est à Conakry et non à Freetown. Et toutes les dispositions sont prises parce que c'est un terrain neutre.
Élisée Vumpati, Boïcon, VOA Afrique.
Silas Katompam-Vupa est suspendu, l'attaquant congolais de Stuttgart, qui a révélé cette semaine avoir joué 2 ans sous une fausse identité, a été condamné à 3 mois de suspension et 30 000 euros d'amende par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football. Le Congolais ne pourra pas rejouer avec le club allemand avant le 11 septembre, soit près d'un mois après la reprise de la Bundesliga. Connu depuis son arrivée à Stuttgart comme Silas Wamangituka, l'attaquant auteur de 11 buts cette saison en Bundesliga, a raconté avoir joué sous une fausse identité à la suite d'une manipulation de son ancien agent.
L'Euro débute ce vendredi à Rome dans un stadio olympico rouvert au public pour la première fois depuis plus d'un an. L'Italie lance cette Coupe d'Europe de football face à la Turquie. Après avoir raté la Coupe du Monde en 2018, une première depuis 60 ans, l'Italie a retrouvé du jeu et de la confiance sous les ordres de Roberto Mancini. 24 pays s'affrontent jusqu'au 11 juillet pour la succession du Portugal, vainqueur en 2016 en France. Ici, en NBA, les Bucks s'accrochent Milwaukee, porté par Antetokounmpo et Middleton, auteur de 79% des points de l'équipe, un record pour un duo en en play-off NBA a réduit l'écart contre Brooklyn 86-83. Milwaukee devait impérativement s'imposer après deux défaites sous peine de risquer le coup de balai devant son public. Il y est parvenu. Désormais, Brooklyn mène 2-1. De son côté, le Jazz garde le tempo. Utah fait le break contre les Clippers 117-111. Dans l'autre demi-finale, Utah mène 2-0.
Page de sport signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Avec la réduction prochaine de la présence militaire française au Sahel et l'annonce d'une coalition internationale contre le terrorisme dont les contours restent à préciser, qu'est-ce qui va changer dans la présence militaire française dans le Sahel? Où une analyse, Abdourahman Dia, adjoint à Bamako, Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute.
C'est dans la logique d'Emmanuel Macron qui voulait éviter à tout prix que la question de la présence militaire française au Sahel soit au cœur de la campagne présidentielle en France, qui est déjà bien ouverte. En plus, il avait l'intention d'annoncer le début de la fin de Barkhane. Entre-temps, Idriss Déby est mort et il fallait réajuster certaines décisions. Maintenant, avec ce qui se passe au Mali, il y a eu quand même une montée en puissance d'une contestation de cette présence, en tout cas d'approbation des nouvelles autorités maliennes qui, à mon avis, aux yeux de Paris n'ont pas été assez sanctionnés par la CEDEAO et par l'Union africaine et la communauté internationale. De ce point de vue, la France veut éviter d'être dans le paradoxe d'une présence militaire française dans un pays pour combattre les terroristes avec lesquels des pays comme le Mali vont inévitablement négocier.
Et justement, il ne veut pas entendre parler de négociations avec les djihadistes. Ça vous semble raisonnable?
Ici au Mali, la question s'est posée suite à la fin des sessions de dialogue national inclusif. Dans les recommandations de ces dialogues, les Maliens, toutes les parties prenantes au Mali, ont convenu d'un dialogue nécessaire avec les groupes terroristes maliens, c'est-à-dire Iyad Ali et Amadou Koufa, en disant que le Mali n'a pas les moyens, sur le long terme, sur le plan militaire, de combattre éternellement les djihadistes avec les moyens militaires, d'autant plus que certains pays comme les États-Unis n'ont pas pu tenir, même en Afghanistan, il a fallu parler aux talibans. Mais dans la logique française, il n'était pas question de dialoguer. Donc c'est quelque chose qui est un point d'achoppement dans l'appréciation de la situation sécuritaire ici, et je pense que ce n'est pas seulement lié aux nouvelles autorités arrivées par le biais de ce putsch-là, mais je pense que c'est un sentiment largement partagé dans la rue malienne.
Alors, le président Macron parle d'une alliance internationale associant les États de la région du Sahel. Est-ce que ce n'est pas un peu le schéma qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qui va vraiment changer?
Partons donc vers un élargissement de fait du G5 Sahel en incluant les pays côtiers. Si l'on sait le souhait de certains pays à y participer, aujourd'hui il y a l'inauguration de l'Académie internationale du terrorisme à Abidjan, il y a eu pas mal de choses qui se passent, des rendez-vous sécuritaires comme le forum de Dakar, et aujourd'hui tout le monde parle de cette avancée fulgurante des groupes qui de plus en plus s'éloignent de l'épicentre sahélien du djihad pour aller vers les pays côtiers. Je pense qu'on va vers une nouvelle configuration qui se dessine aujourd'hui. Mais cette déclaration n'est pas à prendre comme un désengagement définitif de la France par rapport au Sahel. Je ne le crois pas. On va vers un nouveau schéma, pas vraiment vers un nouveau paradigme, mais quelque chose s'est passé pour que véritablement la position française évolue vers cette décision annoncée par le président Macron.
Docteur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le Mali à la croisée des chemins avec l'annonce du président Emmanuel Macron de réduire l'effectif de la force française Barkhane, ainsi que la fermeture de certaines bases de l'armée française. Je vous propose de suivre les réactions des hommes politiques maliens avec notre correspondante, Mariam Kouyaté.
Suite à la décision du président français Emmanuel Macron de réduire l'effectif de la force Barkhane au Sahel, particulièrement le Mali, la classe politique ne reste pas indifférente. Sédou Cissé, membre du parti Les Forces Nouvelles.
Mais puisque nous sommes dans une situation, à mon avis, qui n'est pas normale, cette réduction repose, à mon avis, plus sur prétexte. Un prétexte parce que c'est comme si la France était essoufflée. Et plus d'un milliard de dollars et d'euros chaque année pour les forces Barkhane. La France est essoufflée. Et en ce moment, et puis les objectifs que les forces Barkhane visaient aussi, quand on regarde ces objectifs-là aussi, à mon avis, c'est un prétexte qu'il a utilisé peut-être pour se répiffer et puis peut-être aussi essayer de se donner une certaine santé financière à ces caisses nationales qui sont vraiment fatiguées, essoufflées. Et une partie de l'opinion aussi qui s'interroge tous les jours, l'opinion française qui s'interroge tous les jours, c'est pourquoi le bien fondé de l'intervention de la France dans le Sahel. En mettant bout à bout toutes ces questionnements-là, à mon avis, moi je dis tout simplement que c'est plus un prétexte que quelque chose, à mon avis, qui soit adossé à des arguments convaincants.
Selon Mahaman Mariko, président du Fassounieta, l'État malien n'a pas assumé ses responsabilités face à la lutte contre le terrorisme.
Beaucoup sont aujourd'hui en train de jeter la pierre sur la France et sur les autres. Je pense que la pierre ou les pierres doivent être jetées à nos États qui ont fui leurs responsabilités. C'est face à l'irresponsabilité de ces États-là à prendre en charge les questions d'éducation, les questions de santé, les questions, comme on appelle, sécuritaires de leur propres concitoyens.
Le Mali confronté à l'insécurité, quelles seraient les stratégies à mettre en place après la réduction de la force Barkhane? C'est Sédou Sissi.
Un pays qui est assez malade comme le nôtre, le Mali, à mon avis, c'est avec une intelligence générale, une intelligence collective, une réflexion, des réflexions poussées, des concertations, des dialogues, qu'on pourra vraiment essayer de relever le pays petit à petit. Et il faut que les autorités militaires maliennes, les autorités maliennes, si vous voulez, ne cèdent pas facilement à une opinion qui s'est radicalisée. Il faut que la France parte. On ne peut pas décréter le départ de la France sans préparer, si vous voulez, quelque chose qui va, à mon avis, combler le vide que cela va rester.
La force Barkhane est présente au Mali depuis 2014. Elle mobilise plusieurs milliers de soldats contre des groupes djihadistes. Selon le président français, l'effectif de Barkhane sera réduit au Sahel, mais la lutte contre le terrorisme va continuer. Mariam Kouyaté, VOA Africa, Bamako.
En Algérie, à la veille d'élections législatives censées apporter une nouvelle légitimité au pouvoir, la journée de vendredi a connu des arrestations visant des figures de mouvements contestataires. La police était largement déployée dans le centre d'Alger pour empêcher toute tentative de marche de l'Irak. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Alger le vice-président de la Ligue pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali.
Le climat général, c'est un climat de répression, des arrestations, des restrictions de liberté qui ciblent toutes les voies discordantes, toutes les voies qui refusent de s'inscrire dans la feuille de route et dans l'agenda électoral du pouvoir. Aujourd'hui, nous notons plus de 200 détenus d'opinion, nous notons des journalistes en prison, des avocats en prison, des militants politiques en prison. Nous assistons aujourd'hui à des attaques contre même les acquis démocratiques, notamment des partis politiques qui sont menacés de dissolution, des associations qui sont menacées de dissolution, des organisations qui ont plus de 30 ans d'existence qui sont aujourd'hui vraiment menacées de dissolution. Si vous voulez, à la veille de cette élection législative, nous ne sommes pas dans un climat de démocratie, dans un climat de liberté, nous ne sommes pas dans un processus ouvert, dans un processus démocratique, bien au contraire, nous sommes vraiment dans un processus fermé, dans un processus marqué par la restriction de liberté, notamment démocratique.
Le mouvement Irak, une partie de l'opposition rejette les législatives anticipées convoquées par le président Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser davantage ceux qui prônent le boycott?
Je ne pense pas. Je pense que la situation s'est décantée de plus en plus. Aujourd'hui, le débat se situe au niveau de deux feuilles de route, entre la feuille de route de celle qui veut la continuité du système, notamment par des élections de fait accompli. pluie et ceux qui veulent réellement le changement démocratique, un changement authentique, un changement pacifique et apaisé.
Est-ce que pour vous, c'est un processus non transparent qui fait que finalement le Irak ou l'opposition ne participe pas?
C'est un processus fermé, marqué par la force. C'est des élections qui ne se déroulent pas dans un climat normal, dans un climat ouvert. Aujourd'hui, c'est des élections qui se déroulent vraiment dans la contrainte. C'est des élections qui n'ont pas permis au peuple algérien de s'exprimer. Je parle de tout le processus, notamment lors de la campagne électorale. Les Algériens ont été empêchés d'exprimer leur voix, notamment l'opposition démocratique. Quand vous assistez au verrouillage du champ médiatique, du champ politique, quand vous assistez aux attaques contre les libertés d'organisation, de manifestation publique, de réunion, toutes ces libertés sont carrément mises sous scellé. Aujourd'hui, le Chirac, qui a promis le changement démocratique en février 2019, aujourd'hui vit vraiment un moment de désillusion. Vraiment, c'est la désillusion. Au moment où nous attendions, où nous espérions vraiment un changement démocratique, une ouverture démocratique, nous assistons aujourd'hui à une régression inquiétante sur le plan des libertés et des droits humains.
Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, joint dans la capitale algérienne. Joe Biden est en Europe pour sa première visite à l'étranger en tant que président. Il a annoncé hier à la veille de l'ouverture du sommet du G7 que son administration va donner 500 millions de doses du vaccin Pfizer contre le Covid-19 à 92 pays à revenus intermédiaires. Reportage de l'envoyé spécial de la VOA, Patsy Widakuswara, le récit est de Michel Joseph.
Après sa réunion avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet du G7, le président Joe Biden a fait une annonce majeure.
Les États-Unis achèteront 500 milliards de doses du vaccin Pfizer contre Covid-19 pour en faire un don de près de 100 pays qui ont désespérément besoin de lutter contre cette pandémie.
200 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech seront livrées d'ici la fin de l'année et 300 millions d'ici juin 2022. Ces doses viennent s'ajouter aux 80 millions que les États-Unis ont déjà promis de livrer d'ici à la fin de ce mois. M. Biden n'a pas raté l'occasion de faire allusion à la Chine et à la Russie.
Nos dons de vaccins ne sont pas faits avec la pression pour les faveurs ou des concessions potentielles. Nous faisons cela pour sauver des vies, pour mettre fin à cette pandémie.
En annonçant ses plans à la veille du sommet, Joe Biden pousse le groupe des 7 pays riches à suivre son exemple. Il rejette également les accusations selon lesquelles les États-Unis ont gardé les vaccins pour eux-mêmes. Leslie Vinjamuri dirige le programme États-Unis et Amérique à Chatham House.
Il essaie de signaler que l'Amérique n'est pas centrée sur elle-même, ce qui, je pense, a été une profonde préoccupation pendant les années Trump, mais aussi durant la pandémie, lorsque, pendant si longtemps, les États-Unis ne partageaient pas tout simplement les vaccins. Et je pense qu'il subit des pressions à l'échelle mondiale pour jouer le rôle de leader.
Quelques heures après l'annonce de Biden, Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne ferait don d'au moins 100 millions de doses de vaccins excédentaires. Les pays les plus riches se sont engagés ce vendredi, au sommet du G7, à fournir 1 milliard de doses aux pays nécessiteux. La firme pharmaceutique Pfizer fabrique des vaccins à base d'acide nucléique qui sont produits non pas en utilisant des formes affaiblies du virus, mais en utilisant le code génétique du pathogène. Albert Bourla, PDG de Pfizer.
Jusqu'à présent, les données montrent qu'aucune des souches variantes qui existent n'a échappé à la protection fournie par notre vaccin.
Les militants ont accueilli favorablement la décision de Biden. Ils souhaitent que les pays riches fassent autant pour aider à vacciner le monde, en particulier les pays qui ont plus de doses qu'ils n'en ont besoin. Tom Hart dirige la campagne One, une organisation qui travaille pour mettre fin à la pauvreté et aux maladies évitables.
Bien que ces doses n'existent pas aujourd'hui, et bien sûr, les pays ont l'obligation d'accélérer réellement les programmes de vaccination de leur population nationale. Ils ont des contrats d'achat pour plus que ce dont ils ont besoin. Ils doivent négocier maintenant pour diriger ces excédents vers les pays dans le besoin. C'est la chose urgente sur laquelle les G7 doit se mettre d'accord.
Les doses promises par le président Biden seront délivrées via COVAX, le mécanisme de partage des vaccins des Nations Unies. Elles coûteront 3,5 milliards de dollars aux contribuables américains, dont 2 milliards seront payés avec des fonds déjà promis à COVAX.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une